France Inter.
Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. La présence.
Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle tout.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
Je peux connaître votre nom ?
Piccoli.
Piccoli comment ?
Comment ça, Piccoli comment ?
Il y en a plein des Piccoli. J'ouvre un annuaire, j'en trouve un wagon.
Il n'entrait dans aucun carcan, même au terme de 7 décennies de cinéma et 200 films. Il reste un mystère et toujours un modèle d'acteur libre, anticonformiste. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Il a tout joué avec les plus grands cinéastes, de Hitchcock à Carax, en passant par Sautet, Melville, Buñuel, René, Ferreri, Godard, Demy et tant d'autres. Michel Piccoli est parti en 2020, une cinémathèque à lui tout seul, tous les hommes réunis en un seul. Bonjour Yves Jolland.
Bonjour.
Vous lui aviez consacré un doc, l'extravagant Monsieur Piccoli, sur son éblouissante carrière. Oui, extravagant, ça lui allait si bien. Un livre sur lui vient de sortir, Michel Piccoli, le génie du jeu, aux éditions de La Martinière, et signé Olivier Père et Ludivine Piccoli. Le génie de son jeu, vous l'avez expérimenté. Bonjour Claude Bruyéras.
Bonjour.
Dans votre film « Tout va bien, on s'en va ». Piccoli, sûrement pas un monument, il aurait détesté l'expression, mais plutôt un éternel débutant. Enfin, nous évoquerons les sorties de ce mercredi, des preuves d'amour à Franz K. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Vous êtes aussi un acteur qui n'a pas peur de déplaire aux spectateurs dans certains rôles.
Non seulement j'ai pas peur, mais ça ne me déplaît pas.
Ça vous amuse même?
Ça m'amuse beaucoup, oui. Mais vous savez, c'est tellement intéressant de voir la réaction des personnes, ou spectateurs, ou des personnes dans la vie à qui on déplaît, à qui on peut déplaire, qui peut être d'ailleurs un passage de l'existence catastrophique. Mais j'aime bien frôler les catastrophes, à la ville comme à la scène.
Peu d'acteurs pourraient dire la même chose à son époque et à la nôtre d'ailleurs. Cette peur d'éloigner un public qu'il ne l'avait pas, à l'inverse d'un Belmondo par exemple. Il était moins volubile, plus opaque. Pas une star, juste un immense acteur. Michel Piccoli, extravagant. C'est l'adjectif que vous retenez, Yves Jolland, pour le définir dans votre documentaire. Extravagant ou alors bizarre, excentrique. Il aimait bien ce mot qu'il employait souvent.
Oui. Et d'ailleurs, les conversations que j'ai pu avoir avec lui ou quand je me plongeais dans les archives, le mot extravagant revenait, le mot difficultueux, le mot... Il avait des mots à lui, drôlatique, il disait beaucoup drôlatique. Et en discutant avec Ludivine Piccoli, son épouse, elle me disait aussi quand il s'emportait, il disait souvent « Ah, ça c'est de l'enconnardement. » Et je l'ai conchis, voilà. Et donc c'est vrai qu'il avait son vocabulaire et sa place à part. C'est vrai qu'il était exubérant, fantasque, farceur, parce que souvent on a tendance à se souvenir d'un Piccoli dans certains de ses rôles, froid, manipulateur, trouble, ambigu, mais il avait ce côté farceur qui était une folie qui appartenait à lui, qui était... Oui, c'était un homme cocasse, quoi, et qui aimait beaucoup s'amuser.
Quand je dis une cinémathèque à lui tout seul, c'est vrai, parce qu'il a fait plus de 200 films. On dit que ça pourrait être, si on veut connaître le cinéma du XXe siècle, il faut voir les films de Michel Piccoli. Donc il fallait faire des choix là-dedans. Vous avez retenu un trio, vous Yves Jolland, de drôles de cinéastes d'ailleurs, Buñuel, Ferreri et Sautet, tous très différents.
Oui, et très différents, et ils ont chacun leur folie également, que ce soit Ferreri, Sautet ou Piccoli. Et c'était pas simple, je savais que j'étais contraint par une durée, mais ça me plaisait plutôt d'ailleurs, et je pouvais pas faire 2h30 comme j'avais pu faire avec Chaplin, un film que j'ai réalisé, signé avec François Aimé. Et là, si on aurait pu faire 2h30 avec, vraiment, vous avez cité tous ces cinéastes, avec Piccoli, il y a vraiment matière à faire 2h30. Et donc, j'ai de manière un peu scolaire, vous avez cité tous ces grands réalisateurs qui représente le cinéma du XXe et du XXIe siècle.
Oui.
Et donc, je suis allé chercher ceux avec qui il avait le plus travaillé.
Il y a eu d'affinité aussi.
Et je suis,
d'alter ego.
Et donc, alors, bêtement, alors, là, je suis tombé, les trois qui arrivaient en tête, c'était ces trois nationalités différentes, d'ailleurs.
Oui.
Un espagnol, un français, un italien.
Oui.
L'italien, c'est Ferreri, l'espagnol, c'est Buñuel, le français, c'est Sauté. Et c'était en plus trois amis très proches de Piccoli. Donc ça faisait sens et ça nous ramenait aux années 70. Et les années 70, c'est peut-être, dans l'imaginaire collectif, le Piccoli, on a l'impression qu'il a toujours eu le même âge, quoi. Cet homme entre 45 et 55 ans.
Il n'a jamais été jeune. Il n'a jamais été vieux non plus. Enfin, je veux dire, d'abord, il n'a jamais été jeune premier.
Non, mais il a été Don Juan.
Oui, il a été Don Juan, certes, mais sans âge, quoi.
C'est vrai, c'est vrai. Donc,
ou en prenant une maturité. Enfin, c'est au moment de la maturité où ça devient très, très intéressant.
Ouais.
Comme beaucoup d'entre nous, tout est parti de l'enfance, le fameux trauma originel qu'il explique. Et voilà, et il dit « Je suis né, disait-il, par hasard et par compensation ».
Sauté, il dit une très belle chose sur vous, j'ai lu ça quelque part, il dit « Piccoli, c'est un enfant qui n'aurait pas joué petit et se rattraperait adulte. »
Il ne s'est pas trompé.
Oui, il ne s'est pas trompé, c'est ça, hein.
Oui. Pardon à mes chers parents, mais ils ne m'entendent plus, alors je peux y aller, quoi.
Parce que petit garçon très sobre, étiez-vous.
Très sobre, très secret. Et je pense pas tellement désiré au départ.
Vous l'avez raconté, vous pouvez le dire. C'est-à-dire que vous avez eu un frère aîné qui est mort. Et
oui.
vous dites toujours que vous êtes là parce qu'il est mort.
Ben oui.
C'est sinon, une place un peu lourde.
Je n'aurais jamais songé à faire un deuxième enfant. J'en suis persuadé.
Vous êtes...
Ils me l'ont d'ailleurs plus ou moins expliqué.
Vous êtes là et vous êtes acteur aussi à cause de lui.
Grâce à lui.
Et grâce à lui. Oui. Mais cette volonté de... C'est joli, psychanalytiquement parlant, cette volonté de jouer plein de figures différentes pour en remplacer un seul, quoi.
Ben oui, mais c'est très amusant, finalement, d'être plusieurs, non ? Non ? Il y a des gens dans la vie qui ne sont pas acteurs, mais qui sont plusieurs, qui ont le goût, le talent d'être plusieurs personnes à travers leur vie personnelle, à travers leurs métiers différents, etc.
L'important, c'est de ne pas se perdre.
Ah, ça oui.
Ce côté enfantin, Claude Moreiras, même si vous avez tourné avec lui en 2000, vous le sentiez chez lui ?
Ah oui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait envie de jouer et qui avait surtout envie de découvrir. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'impression d'être un documentariste animalier avec lui. C'est un truc, alors vous aviez en face de vous, d'un côté, un espèce de pachyderme, enfin, un espèce d'éléphant un peu... Voilà, excessivement fort. Il y avait un côté gazelle aussi, qui était très très drôle et très doux. Et puis il y avait un côté lion quand même. C'est-à-dire qu'il y a, et voilà. Et je trouve qu'il fallait aller saisir, et il était d'une générosité incroyable dans le jeu. Avec ses partenaires aussi. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui, avec une enfant, moi je me souviens d'une scène avec une petite fille, et donc dans le film, on sent que le grand-père doit partir à un moment donné, enfin voilà, est au bord de quitter la vie. Et elle devait être triste et pleurer. Et il était terrifié par cette scène. Il était terrifié par le fait. Et la petite fille lui dit, tu sais, t'inquiète pas, je vais penser à mon grand-père qui est parti et ça va très bien se passer. Et tout d'un coup, il y avait une espèce de... Ils étaient sur le même niveau d'enfance.
C'est Godard qui l'a vraiment révélé au public. Hein, Yves Violent, vous le racontez dans votre documentaire, L'extravagant Monsieur Piccoli. Donc en 63, dans Le Mépris, il avait quand même déjà tourné 40 films à l'époque, Yves Violent.
C'est vrai. Et ben, il faisait des apparitions. Il avait même, il avait joué dans French Cancan.
Oui, Renoir.
Il avait commencé avec Louis Daquin dans Le Point du Jour de mémoire. Et c'est-à-dire que je parle des années 70 qui sont vraiment importantes, où il va d'ailleurs arrêter de faire du théâtre pendant cette décennie-là. Parce que dans les années 60, il joue encore au théâtre, puis il reprendra le théâtre dans les années 80. Mais dans les années 60, il y a effectivement eu, disons, trois marqueurs importants qui sont Le Mépris. Il va se faire connaître du grand public avec 12 millions de téléspectateurs grâce au Don Juan de Bluval.
Ouais.
Et puis il y a le Doulos aussi, qui est le premier grand rôle, mais c'est un grand second rôle.
Ouais.
Et le Doulos, ça va de Melville, ça va être vraiment aussi. Mais Le Mépris, effectivement, c'est un tournant, même parce qu'il joue avec Brigitte Bardot, mais comme il dit,
on va l'écouter.
Alors je me tais.
On y va.
Laissons-le parler.
Une fois Melville, m'a proposé de tourner une scène dans le Doulos. Et puis là, brusquement, j'ai été capable de jouer au cinéma. Et puis ça s'est dit. Et puis Godard devant faire un film avec Frank Sinatra et je ne sais pas qui, tout ça ne s'est pas fait et c'est le petit Piccoli qui a hérité du rôle. Un rôle dans un film qui s'appelle Le Mépris, de Moravia, avec Brigitte Bardot, avec Jack Balance, avec Fritz Lang. C'était un peu entrer par la grande porte. Entrer par la grande porte et en même temps c'était assez dangereux parce que c'était le rôle d'un personnage plutôt lâche, veule. Je n'arrêtais pas de me faire insulter par la plus belle star du cinéma mondial à laquelle je disais je t'en supplie sois gentil avec moi, embrasse-moi et elle n'arrêtait pas de me dire tu me dégoûtes, tu me dégoûtes. Il y a de quoi ruiner la carrière cinématographique d'un acteur.
T'es devenu méchant tout à coup.
Moi, je suis toujours la même. C'est toi, Paul, qui a changé. D'ailleurs, c'est depuis que tu connais des gens de cinéma. Avant, tu écrivais tes romans policiers. On n'avait pas beaucoup d'argent. Mais c'était bien quand même.
Yves Jelan, c'est un acteur qui arrivait à parler à Godard. Beaucoup d'acteurs se sont plaints de ce cinéaste, mais pas Piccoli.
Non, il y avait même une sorte de gémellité. Alors, je pense qu'il était moins proche de Godard qu'il ne pouvait l'être de Sauté, de Ferreri ou de Buñuel.
Oui.
Mais c'est vrai que dans Le Mépris, c'est comme si il s'inspire ou il les imite d'une certaine façon. Et là, dans Le Mépris, il a le chapeau de Godard, il a les lunettes de Godard, et plus tard, il va s'inspirer aussi de Sauté. C'est comme il essaie de...
Il entre dans les fantasmes aussi des
exactement,
réalisateurs.
Exactement, oui, oui. Et donc, il devient leur double, en fait, oui. C'est ça. Et donc, alors, je ne sais pas si c'est qui se projette, si c'est l'acteur qui se projette dans le cinéaste ou le réalisateur dans son comédien, mais il y a effectivement... Après, il le retrouvera plus tard, Godard. Mais la relation entre Godard et Piccoli, en tout cas, moi, Piccoli ne m'en a pas parlé. Encore une fois, c'était vraiment l'autre trio, sur ce trio-là que j'avais plutôt travaillé. Mais oui, c'est impressionnant de voir la manière dont il se projette, quoi.
Et bon, Claude Moreas, il n'est pas entré dans vos fantasmes, que vous n'aviez pas l'âge de son personnage. Mais comment il a investi cet homme qui perd peu à peu la mémoire en retrouvant ses enfants?
C'est marrant parce que je dirais que c'était un peu prémonitoire et c'était quelque chose où il était il en rigolait beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de très... il a construit ça de façon très très chaotique en ne sachant pas où il allait et il voulait justement ne jamais savoir. C'est-à-dire que je trouve que c'est ça qui était hallucinant. C'est-à-dire que de prise en prise, il pouvait vous faire des propositions d'une... Enfin voilà, ça partait de et se réinventer à chaque prise. Et ça, c'était génial.
Bah tiens, on va écouter un extrait de votre film, Tout va bien, on s'en va. 2000, pourquoi vous faites cette tête-là? Il est vachement bien à revoir le film.
Oui,
parce que
film,
face à Piccoli, il y a quand même Miu Miu, Sandrine Kiberlin et Natacha Régnier. Ces trois filles qu'il retrouve à Lyon. Il revient, il erre un peu dans les rues, il essaie de les retrouver, elles lui en veulent beaucoup. Et on a choisi cette scène avec Natacha Régnier.
C'est vraiment très très bien. C'est fou les progrès que tu as fait.
C'est pas fini.
Je sais, mais enfin, on peut déjà un petit peu parler. Parce que ton jeu est devenu tellement plus fort, plus personnel.
Tu te souviens comment on jouait?
Ah, mais bien sûr, je me souviens de tout. De ton sérieux, de ma patience, puis des rêves qu'on avait tous les deux. Mais quand j'y pense, parce que tu pouvais déjà jouer ça à 10 ans.
Enfin, pas comme ça.
C'est ça que tu vas jouer à l'audition?
Non. J'aime plus jouer. Il y a trop de fantômes autour.
Sans mauvais souvenirs? J'ai toujours dit que tu étais une enfant prodige.
Non, mais je n'ai jamais été. Jamais.
Tu étais une enfant prodige?
C'est criminel de dire à son gosse que c'est un enfant prodige. Tu l'as dit, mais il n'y a que toi qui l'as pensé. Tu l'as rêvé.
Mais je ne l'ai pas rêvé. Ce que tu en as fait, ça, c'est autre chose.
C'est C'est intéressant ce qu'elle lui dit, Claude Moreiras, parce qu'il est un peu comme, il peut être comme ça, il peut dire des choses, il pourrait dire des choses comme ça aussi.
Oui, puis ce qui est génial, c'est d'entendre à la fin, mais c'est, enfin, tout d'un coup, c'est très doux, machin, et puis tout d'un coup, ça claque, quoi. Et y a, ça, c'est lui. Il a une espèce de sens du tempo dans la scène, et tout d'un coup, c'est infime, cette voix qui, tout d'un coup, claque, ferme et condamne.
Sa deuxième naissance, grande naissance au cinéma, Yves Violent, vous en parlez dans votre doc, donc l'extravagant Monsieur Piccoli, c'est avec Sautet, à Sautet qu'il la doit, avec Les choses de la vie, en 1970.
Avoir fait Les choses de la vie, ça représente quoi pour vous ?
Une œuvre, pas seulement un film, mais une vraie œuvre, sur le plan professionnel. Et personnellement, avoir revécu des choses que moi, personnellement, j'avais vécues dans mon existence déjà, à part l'accident, heureusement.
C'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie. Pour moi, Claude Sautet, c'est un des plus grands metteurs en scène du monde. Et Michel Piccoli, alors, j'aimerais faire, je ne sais pas, encore 50 films avec lui. Que c'est un très grand acteur, c'est pas la peine que je le dise, mais c'est surtout absolument extraordinaire et merveilleux de travailler avec lui. Sa sensibilité, le respect, son respect pour le travail des autres, c'est très rare.
Qu'est-ce que vous attendez le plus d'un partenaire dans un film ?
Tout ce que Michel Piccoli a.
Je t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. Les avions partiront sans nous. Je ne sais plus t'aimer, Hélène.
Alors, si la jeune génération ne connaît pas trop Piccoli, peut-être que cette musique-là, elle ensorcelle encore
oui.
Le public. En fait, Les choses de la vie, c'est sa mort au ralenti.
Oui, c'est l'histoire d'un mort.
C'est l'histoire d'un mort, c'est une mort au ralenti. Il en reparlait de ce film, Claude Moreiras.
Oui, je crois que, enfin, on en a en tous les cas beaucoup parlé parce que c'était un film qui était, moi, j'avais adoré ce film. Enfin, c'était un film qui m'avait habité pendant longtemps, cette espèce d'histoire d'amour, cette femme qui ne donne pas la lettre à la fin qu'il a écrit. Enfin, il y a des choses magnifiques dans ce film. Enfin, quand elle dit c'est une œuvre, enfin, moi, je pense qu'on peut le revoir aujourd'hui. Il a rien perdu du tout, quoi.
Homme de gauche qui pouvait jouer des grands bourgeois, Yves Jolon.
Oui, mais là c'est le
Pompidolien.
Oui, certes, il y a ça. Mais en tout cas, je pense que Sautet n'était pas du tout un cinéaste bourgeois et pompidolien.
Non.
Contrairement à ce qu'on a pu dire. Et c'était, d'ailleurs, Piccoli le disait, c'est peut-être le cinéaste le plus fou et le plus révolutionnaire avec lequel j'ai travaillé, même s'il ne se l'avouait pas lui-même. Et là, c'est vraiment... Il va jouer avec Les choses de la vie, un homme faillible. Plus les bourgeois d'avant qui étaient froids, qui allaient résoudre les problèmes, enfin, même s'il n'est pas toujours sympathique dans Les choses de la vie, Piccoli. Mais c'est en plus, enfin, entendre Romy Schneider, ouais. Quand même. Romy Schneider, elle en a eu des partenaires entre Trintignant, Montand, et dire que c'est son partenaire, son acteur préféré, qu'elle puisse dire ça. Et puis, c'est le premier film avec Sautet. Et après, il y en aura d'autres tout au long de la des années 70. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on lui parlait beaucoup des choses de la vie.
Ouais.
Ce film qui va sortir en même temps que Dillinger Hammer de Ferreri.
Ouais.
La même semaine, sur les écrans, il y en a un qui va faire 100 fois plus d'entrées que l'autre. Et Les choses de la vie, évidemment, ça va être un, vous avez raison, c'est un nouveau début pour lui.
Sauf que, effectivement, avec Ferreri, il le suit jusqu'au bout.
Oui.
Et notamment, le scandale de la grande bouffe à Cannes, il était coproducteur, je crois, du film.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on dit souvent que c'est un acteur, mais c'est d'abord, ça sera un réalisateur à l'âge de 72 ans, pour le premier film. Mais il est coproducteur, il s'engage beaucoup. Il a cette particularité, comme pouvait être aussi Jacques Perrin ou d'autres, de pour qu'un film se fasse, de dire ben, je ne serai pas payé, c'est ce qu'il fera avec Faraldo pour Thème Rock, pour plein d'autres films, de faire beaucoup de premiers films, de faire commencer des jeunes cinéastes comme Costa Gavras par exemple, de s'engager, mais aussi d'être producteur de films et voilà, avec un grand courage et un engagement. Je ne sais plus avec quel film aussi là, il produira. Enfin bon, oui, c'est vrai que.
Il a joué aussi des rôles un peu pervers, malsains, notamment Bah, y a, on peut citer le sucre de Ruffio, le...
Oui, Max et les ferrailleurs.
Une étrange affaire.
Une étrange affaire, c'est un film formidable, oui, exceptionnel, de Pierre Granier de Fer.
Alors racontons-le, parce qu'il joue, un patron manipulateur avec Gérard Lanvin.
Oui, je regrette d'ailleurs de ne pas avoir réussi à caser un extrait, c'est peut-être mon regret d'une étrange affaire dans le documentaire que j'ai consacré à Piccoli. Oui, il y a des scènes d'une ambiguïté féroce, quoi. Oui. Je me rappelle la scène où il est à poil en train de se raser devant dans la salle de bain. Non, je ne le raconterai pas. Allez voir le film.
Non, mais comment il influence la vie de ce jeune garçon, l'enfant un peu naïf.
Exactement.
Et de sa femme.
Il y a Jean-Pierre Calfon également.
Et voilà, il est entouré de Calfon et Balmer.
Exactement.
Ça fait un trio infernal.
Je vais chercher l'autre nom. Le trio infernal étant un autre film.
Un autre film de Francis Giraud.
Alors, il copiait aussi donc ses metteurs en scène dans les films, mais également dans la vie, comme avec Claude Sautet, dont il imitait les colères. En répétition et dans la scène. Je sais qu'on l'a beaucoup entendu cette scène, mais on ne s'en lasse pas. Non. Vous la prenez un peu avant, entre Sautet et lui, et vous la prenez un petit peu après, Yves Jolland.
Claude Sautet est toujours très calme. Quand il dirige, par exemple, hier, je vais dire bonjour madame, c'est écrit dans le texte. Néron avait... Tu m'as dit dis-moi là bonjour. Ah non, tu le comprends, moi. Toi, tu dis, il y a écrit mais là bonjour. De quoi? C'était dans le texte. Tu dis que je bonjour,
Et la colère la plus célèbre de l'acteur Piccoli, c'est sans doute celle-là.
Non mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. On se va les conseils imbéciles jusqu'à la fin des temps. Écoutez, un écrit là qui n'écrit pas, un boxeur qui veut pas boxer, des fois pas me coucher avec n'importe quoi. Merde. Et quand on s'est parti, l'autre qui va rester avec sa danseuse qui a une jambe mécanique, qu'est-ce que j'ai à foutre?
Écoute François, écoute.
Ta gueule toi. Tu m'emmerdes aussi.
Improvisation folle. C'est vrai qu'il pouvait faire peur, Claude Moyas. Il pouvait faire peur, Piccoli, ou pas?
Ah oui. Moi, je me souviens d'une scène, c'était en 2002, au deuxième tour, et il y avait Le Pen. On était à la maison, on discutait politique, parce que c'était quand même un militant politique, quelqu'un d'engagé, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Et donc, on s'est engueulé. Enfin, quand on dit on s'est engueulé avec Michel Piccoli, c'est en général, c'est il vous a engueulé, et vous essayez de quand même d'éviter les coups sur est-ce qu'il fallait s'abstenir ou est-ce qu'il fallait voter pour l'autre. Et ça, c'était des colères, mais qui étaient... pour lui, c'était, il y a une colère, mais qui était forcément juste. Enfin, c'était pas contre vous, mais c'était quelque chose qui, enfin voilà, c'était, il défendait de façon forcenée, vraiment forcenée, ses positions politiques ou aussi des positions artistiques sur un plateau. Hein.
Et sur le plateau aussi, il a eu des colères ou pas?
Oui, alors il y en a une. Alors il aimait pas du tout la télévision sur les plateaux. Voilà. Et donc pas de chance. Il y avait un pauvre caméraman de M6 qui est venu sur le plateau et il a eu la très mauvaise idée de se placer dans sa vision par rapport à l'autre comédien. Voilà, juste derrière. Donc il était face à la caméra. Et en plus, moi j'avais eu la très mauvaise idée de faire pleuvoir parce que c'était une scène de pluie. Et là, c'est parti en live direct et ça a été un peu compliqué.
Les actrices avaient peur de lui ou pas?
Non, je crois pas du tout. Ah non, je crois pas du tout. Je crois que c'était quelqu'un d'excessivement respectueux, excessivement à l'écoute de son partenaire et qui arrangeait toujours, qui trouvait toujours une solution dans son jeu pour que l'autre soit mieux.
Avec Laurent, on l'a beaucoup rencontré. C'est vrai qu'il était très impressionnant comme acteur et en présence aussi, mais en même temps, il se voulait l'homme de la rue. Par exemple, il avait raconté à une journaliste qui pouvait prendre le métro comme tout le monde, et la fille l'a pris au mot, elle est allée dans le métro avec lui, et effectivement, soit les gens ne le reconnaissaient pas, ou le reconnaissaient en lui disant bonjour, mais c'est tout, hein, Yves Jolland.
Oui, moi c'est ce souvenir, j'ai pas connu les colères de Piccoli, parce que je l'ai connu vraiment dans ces dernières années, donc ces colères, c'était émoussé, en tout cas, je n'ai pas affronté ces emportements ou ces empourprements, mais son cœur était toujours flamboyant, donc il y avait toujours au fond de son regard cette intensité. Et quand on se baladait dans la rue, je me rappelle, près de là où il habitait, vers Bastille, personne n'allait voir Piccoli pour lui demander un selfie. Hein. Ça existait déjà, les selfies. Mais les gens se retournaient sur lui, mais n'osaient pas trop l'aborder. D'abord, ouais. Il y avait sa haute stature, cette silhouette très impressionnante, mais les gens se retournaient. Vraiment, au restaurant, on dit « Regarde, c'est Piccoli », mais on n'allait pas l'aborder. Il y avait une certaine distance. Mais c'est vrai qu'il était dans la rue, et ce que je voulais dire tout à l'heure, quand je disais qu'il était producteur aussi, la chose très particulière qu'il avait, c'est que cet acteur n'a jamais eu d'agent.
Il ah ouais.
traitait directement.
Ouais.
Toute sa vie, jamais Piccoli n'a eu d'agent. Ça, c'est assez particulier. Et on pouvait trouver son téléphone sur l'annuaire.
Je reviens à cette scène du gigot, la fameuse scène. Bon, sa colère aussi s'adressait à un certain Yves Montand en face de lui.
Oui, alors c'est drôle parce que le passage que vous avez passé, c'est d'ailleurs, c'est pas la colère du film, c'est la colère de Rush, de making-of qui était fait, où on le voyait qu'il y avait... Là,
Et heureusement qu'il y avait la télé pour capter
là,
ça.
C'était, oui, je sais pas si c'était la télé ou si c'était un documentaire, mais oui, là, en l'occurrence, peut-être que ça l'a aidé à retrouver cette Calère.
Ouais.
C'est vrai qu'il y a toujours eu une rivalité. Alors, moi, je suis un passionné de Montand, donc c'était pas simple de m'attaquer à Piccoli parce que je sais que les rapports, même s'ils ont manifesté les uns à côté des autres, qu'ils avaient Simone Signoret, qu'ils pouvaient aussi les réunir.
Qu'est-ce qu'il lui reprochait ? D'être un peu un arriviste de la politique ?
Oh non, il lui reprochait, je pense, de
hurler avec les loups, de quoi.
Je pense qu'il y avait aussi une rivalité de deux mâles alpha. Hein. Il y a ça aussi. Donc, il avait un peu de mépris pour Montand.
Le côté hableur de Montand.
Oui, c'est ça.
C'est pas la même tempérament.
Oui,
c'est
je pense que c'était pas. Et je pense aussi, soyons honnêtes, que Montand. Quand vous avez ouvert l'émission avec Piccoli qui vous déclare ça ne lui déplaît pas de déplaire.
Oui,
il aime bien déplaire.
Et c'est pas le cas de Montand.
Montand, il aimait plaire. Et il aimait pas jouer les salauds. Ouais. Et il choisissait ses rôles. Ah, alors que vraiment, Piccoli, Montand aussi, choisissait les cinéastes, les scénarios, les histoires. Le rôle, il s'en moquait.
Ouais,
peu importe.
Montand a quand même demandé. A changé le titre du film Vincent, François, Paul et les autres.
Bah oui, mais il avait raison, c'est tellement long Vincent, François, Paul et les autres. Donc il a dit pourquoi pas Vincent et les autres,
voilà.
Pourquoi pas Vincent
tout
seul.
C'est quand même, c'est
il
quand
a demandé
même...
à Dabadi, oui. Oui.
C'est quand même fou. Il y avait donc, je disais, cet éternel débutant, il l'a prouvé en évoquant Bresson notamment.
Moi, un de mes rêves, c'était que je sois, que je croise, plutôt que Bresson me croise dans la rue, se retourne vers moi et me dise « Monsieur, je suis Robert Bresson, je vais faire un film, est-ce que vous accepteriez de travailler avec moi ?» Alors là, je me serais, contrairement à mon collègue, là, amateur, je me serais régalé parce que j'aurais joué la comédie sans arrêt à Bresson en disant « je suis, musicien, je joue du violon, mais je ne pourrais pas jouer. » Et j'aurais joué le non-acteur pendant tout le temps du film devant Bresson.
Non mais qui dirait ça maintenant ? Quel acteur dirait ça ? Claude Moriaras, vous sentiez qu'il voulait se retrouver vraiment au degré zéro de l'acteur ?
Alors je ne sais pas ce que c'est le degré zéro de l'acteur.
Bah, vierge.
Voilà, c'est-à-dire qu'il arrivait et on n'avait pas répété, on n'avait pas mis en place les scènes, et il y avait quelque chose qui n'était absolument pas de l'ordre de l'improvisation, c'est-à-dire qu'il avait une connaissance parfaite du texte et aussi des textes de ses autres partenaires, et qu'il l'inventait. Et je pense qu'il y avait, quand on dit cette part d'enfance qu'il avait en lui, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cherchait et qui osait aller vers des trucs qui ne marchaient pas, qui osait explorer des choses. Et ça, c'était magnifique.
Alors justement, je le disais en ouvrant cette heure, Piccoli, donc un modèle pour toute une génération d'acteurs, et notamment pour Denis Podalydès, qui nous avait confié avoir été une petite souris et l'avoir croisé en répétition au théâtre.
Sur scène, tout seul, il y avait Michel Piccoli, qui semblait errer à gauche et à droite, perdu dans un immense monologue. Et puis, je le voyais, je l'écoutais, il ânonnait un peu, et ça m'a fasciné complètement. Et puis, à bout d'un moment, il avait dit, bon, c'est pas bon, là, hein. Puis on entend la voix de Luc Bondy qui dit, oui, effectivement, c'est pas bon. Et grand silence, et Piccoli qui dit, bon, il faut s'en sortir, quand même. Reprends, Michel. Il reprenait, et je trouvais Piccoli un peu ennuyeux. Et ça m'a fasciné. Je me suis dit, c'est génial. Il répète, il travaille, il n'est pas très bon, il est ennuyeux, il n'y est pas encore, tout Michel Piccoli qu'il soit. Et ça m'a fasciné. Après, j'ai vu ces jeunes Gabriel Borkman, une pièce très dure d'Ibsen, dans un des monologues les plus durs de la pièce. Et après, en scène, Piccoli fascinant. Mais moi, je l'avais vu ennuyeux et mauvais. Et ça, ça m'a... Vous pouvez pas savoir ce que ça m'a fait du bien.
C'est fou, hein, l'hommage de Piccoli, modèle unique, en fait, Yves Jolan.
Ah oui, oui, on a cassé le moule.
Et ce film, votre documentaire, se termine avec lui dans un parc, d'ailleurs, sur un banc.
Au parc Montsouris, qu'il aimait tant. Il est né pas loin du parc Montsouris.
Et ce qui est beau, Claude Moriarras, c'est que dans votre film Tout va bien, on s'en va, on le retrouve aussi dans un jardin public où commence l'absence. Il a beaucoup joué l'absence, en fait, aussi.
Oui, et puis
les absences.
Oui, tout à fait. Et puis il y a ce film
Viens. Départ.
Oui, voilà, on rentre à la maison.
Oui, de Manuel de Oliveira.
Manuel de Oliveira, qui était aussi. Et je pense que c'est un homme à la fin qui se disait voilà, ça va s'arrêter, et qui avait envie de jouer ça, qui avait envie de se dire voilà, ça va s'arrêter, mais allez, encore un petit tour.
Abemus Papam, c'est aussi l'histoire d'une absence.
Mais oui,
c'est son dernier grand rôle.
Mais oui, de Nanni Moretti. On va terminer ce plateau avec un drôle de duo. Une année, on avait reçu ensemble Michel Piccoli et Alejandro Jodorowsky. Et on leur avait demandé ce petit exercice de rejouer un petit sketch d'un film de Jodorowsky qui s'appelait Fondo Ellis. Et on va quitter Piccoli avec ça. Ensuite, Benjamin Biolay. Et après, on parle des sorties. Claude Moriarras, Yves Jolan, vous restez avec nous, bien sûr.
Et si j'étais un grand pianiste?
Si tu étais un grand pianiste et que je t'ai coupé les bras, que fais-tu?
Je deviendrais un grand peintre.
Et si je te coupe l'autre bras, que fais-tu?
Je deviendrai un grand danseur.
Et si je te coupe les jambes?
Je deviendrai un grand chanteur.
Et si je te coupe la gorge?
À ma mort, ma peau deviendra un beau tambour.
Et si je brûle les tambours?
Je deviendrai un nuage capable de prendre toutes les formes.
Et si les nuages se dissipent?
Je deviendrai pluie et je ferai pousser l'herbe.
Tu as gagné.
Il regarde le ciel immobile et se demande où sont les villes et les ténagères invincibles qui n'est pas revenu de l'ouest. Il regarde la mer impavide qui d'un coup d'un seul se débride, puis boit la gourde à moitié vide. Le ciel et l'eau se font détresse. Il s'empare d'une lame invisible, puis solennellement désigne le port où s'alignent les grues, là où jadis il a vécu une forme de bonheur indicible, avec sa femme, son chien, ses filles. Il se dit je suis encore chaud, j'aime bien mourir maintenant trop beau. J'emmenais mon bateau. Et puis au cas où, je dis bien au cas où, il n'y aurait rien là-haut. Pourrais-je emmener les poteaux? Il regarde la route de l'exil et se demande où vont les îles et les grands oiseaux indociles en forme de signaux de détresse. Il rêve des berges du Tibre, du Nil, humant la fumée d'une de Nil. Il reste au loin quelques collines allongées dans la brume épaisse. Avant ici avait des chenilles, des grands bourgeois d'une grande ville, le confluent, le pauvre et nu, et le jardin montre son cul. Le déclin était prévisible, l'humanité si peu sensible. Mais tant qu'il y aura des bistrots, je veux bien mourir maintenant, trop con.
France Inter, on aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Eh bien, on va commencer les sorties, Laurent, avec ce film des preuves d'amour de Alice Douard.
Céline attend l'arrivée de son premier enfant, mais elle n'est pas enceinte. Dans 3 mois, c'est Nadia, sa femme, qui donnera naissance à leur fille sous le regard de ses amis, de sa mère, et aux yeux de la loi, elle cherche sa place et sa légitimité. Un film autobiographique, donc ressenti au plus près, et qui aborde tous les enjeux familiaux, politiques et juridiques, notamment la course pour l'obtention de témoignages attestant son désir d'enfant et sa capacité à s'en occuper, sans en faire un film dossier, mais une histoire solaire, drôle, émouvante, délicate, et 3 subtiles interprètes, Elia Rumpf, Monia Chokri et Noémie Lvovsky dans le rôle de la mère.
Oui, alors il y a une réplique au tout début du film. Pour toi, c'est déjà ta fille. C'est ce que dit effectivement Céline, donc à sa compagne Nadia, qui elle est bien enceinte d'un donneur anonyme. Et la belle idée du film, effectivement, c'est de se plonger dans le labyrinthe de cette maternité partagée entre l'une qui est une maternité physique, oui, et puis l'autre qui est d'ordre quasiment juridique, puisqu'il s'agit d'une adoption. Et donc le film démarre d'ailleurs avec un aspect presque documentaire en rappelons la loi Taubira, oui, dans laquelle évoluent ces deux personnages, mais, et fort heureusement, le film n'en reste pas là, et il développe de très très beaux personnages, très singuliers, dont effectivement celui de la mère de Céline, qui est un petit peu en retrait par rapport, oui, aux deux héroïnes principales, mais Noémie Lvovsky, dans l'incarnation parfaite de Martha Argerich, c'est-à-dire pianiste de génie, c'est absolument super. Et ça donne vraiment encore plus de puissance au film.
Ça s'appelle Des preuves,
oui,
d'amour.
Des preuves d'amour.
Jean Valjean, en attendant la version signée Fred Cavaillé avec Vincent Lindon, voici celle d'Éric Bénard avec Grégory Gadebois après Gabin ou Ventura, donc d'après l'œuvre Les Misérables de Victor Hugo. Bénard revient, lui, aux origines du personnage, un parti pris modeste, Laurent.
Oui, alors, chapeau bas à la com' du film, hein, parce que on n'arrête pas de vouloir nous faire croire que ce moment des Misérables, les deux premiers livres, personne ne les connaissait avant, personne ne les avait jamais fait au cinéma. On n'avait jamais vu l'histoire des chandeliers, mais c'est n'importe quoi. Tous les acteurs, tout le monde répète ça à l'envi. On nous a même vendu l'idée que c'était un préquel des Misérables. Moi, je trouve la communication dans ces cas-là extraordinaire. Alors, j'ai envie presque de dire foutaise, comme disait Marie-France Pizier dans Souvenirs d'enfance. Mais franchement, c'est pas raisonnable de faire ça, parce qu'il y a des très très belles versions antérieures du film. Celui-là, eh ben, plonge, hélas, dans une sorte d'image d'Épinal permanente, avec un protocole d'adaptation littéraire qui est absolument plat.
Eh bien, ouais. L'arbre de la connaissance d'Eugène Green. Gaspard, un adolescent de Lisbonne, tombe entre les mains de l'ogre, un homme ayant fait un pacte avec le diable. Il utilise le garçon pour attirer des touristes qui, dit-il, détruisent notre pays et qu'il transforme en animaux pour les manger. Gaspard s'échappe avec un chien et une ânesse dont il va tomber amoureux, pitch d'un cinéaste singulier, inclassable, qui signe, Laurent, une satire des temps modernes, du capitalisme et du tourisme de masse.
Oui, oui, c'est une nouvelle fable baroque et bien barrée du barde Eugène Green. Hein. Après un conte basque en langue basque, c'était son précédent film, il se tourne cette fois vers le Portugal en portugais. C'est un amoureux des langues et des langues européennes notamment. Sur la base du pitch bien déjanté que vous venez de rappeler, le cinéaste joue à fond la carte de la comédie, ce qui n'est pas forcément toujours le cas chez lui. Il y a un mélange avec beaucoup de justesse, de malice, de farce, de fantastique, tout en se livrant effectivement à une belle attaque en règle contre, vous le disiez, le tourisme, le capitalisme, dans cette société portugaise. On suit vraiment avec beaucoup, beaucoup de gourmandise les tours et les détours du farfadet Eugène Green.
Eleanor the Great, premier film de l'actrice américaine derrière la caméra, donc Scarlett Johansson. Floride, Eleanor Morgenstein, une femme de 94, plein d'esprit et pétulante, qui après la perte bouleversante de sa voisine et amie, trouve refuge chez sa fille à New York et, à la suite d'un malentendu, se retrouve dans un groupe de survivants de la Shoah et va s'inventer un faux passé, Laurent.
Oui, alors maintenant elle tourne, serait-on tenté de dire, à propos de certaines actrices hollywoodiennes, hein, après Kristen Stewart, c'est au tour de Scarlett Johansson de devenir cinéaste. On peut honnêtement préférer...
C'est un sujet casse-gueule, hein.
Oui, alors un sujet très casse-gueule qui avait été magnifiquement abordé par un film espagnol dont on avait parlé au moment de sa sortie en DVD. C'est très casse-gueule et ça repose énormément sur les belles épaules solides de l'actrice principale, June Squibb, mais malheureusement, la réalisatrice semble préférer presque une autre histoire qu'elle développe à côté. Bah, du coup, dès que cette autre histoire commence, le soufflet retombe, comme si la réalisatrice avait au fond manqué d'audace par rapport à son scénario.
Plutôt noir tous ces pitchs, en fait. Là, on arrive à Franzka, d'Agnieszka Holland. Là,
oui, Kafka,
de son enfance à Prague jusqu'à sa disparition à Vienne, le film retrace le parcours de Franz Kafka, un homme déchiré entre son aspiration à une existence banale et un besoin irrépressible d'écrire, un biopic tout sauf académique, ça c'est bien, pour capter un homme si complexe. Alors oui, foisonnement d'idées, multiples narrateurs de tons, de rythmes, burlesques, tragiques, et cette belle idée de voir Kafka, regarder un musée Kafka de nos jours, et tout le merchandising qui l'accompagne, Burger Kafka a compris, Laurent, et au centre du film un inconnu, Aidan Weiss, aussi singulier que l'homme qu'il incarne.
Oui, mais est-ce que c'est bien raisonnable de vouloir résumer la vie de Franz Kafka en 2 heures de temps ? Moi, j'en suis pas tout à fait sûr, parce que ça donne des choses comme des espèces de cavalcades dans l'enfance à Prague, la relation complexe avec le judaïsme, la relation multiple et complexe tout autant avec les femmes, le personnage d'un père qui devient une sorte d'absolue caricature de méchanceté. Bref, tout ça fait un énorme pudding sur la vie de Kafka. On aurait aimé au fond des choix. Voilà, on choisissait un certain nombre de moments, mais pas tout embrasser en même temps.
Pompéi, sotto le nuvole, ça veut dire Pompéi sous les nuages. Un documentaire signé Gianfranco Rosi, Pompéi, Naples, le Vésuve, des vies sous la menace du volcan, archéologue, pompier, éducateur, marin, photographe. En donnant voix aux habitants, le film compose un portrait inédit de la ville, comme une machine à voyager dans le temps, et c'est en noir et blanc.
Oui, alors Gianfranco Rosi, c'est pas n'importe qui, hein. C'est un documentariste extrêmement important dans le cinéma italien. Il avait notamment donné Fuoco Amare, qui était un magnifique, magnifique film. Et là, cette espèce de retour, en quelque sorte, dans le passé, l'an 79, date de l'éruption du Vésuve, qui a entièrement détruit, évidemment, Pompéi. Mais il y a ce mélange entre ce passé et puis ce présent. La jonction est faite par l'emploi absolument assumé et magnifique d'un noir et blanc, qui est celui certainement évidemment des cendres. Rossi filme l'ensemble, passé et présent, en noir et blanc, donc avec aussi des allusions à ce qui était sous la lave, sous les nuages, on peut le dire aussi. Et loin de tout pittoresque, le documentaire relève une sorte d'archéologie urbaine qui est absolument fascinante.
Il filme aussi des appels au centre de secours,
oui.
Une salle de cinéma en ruine,
bien sûr,
et un navire chargé du blé d'Ukraine.
Ça est présent.
Premières images au sens propre, première neige, un fleurilège,
oui,
de 7 courts-métrages d'animation franco-belge. La neige qui invite au jeu, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l'observation, à la découverte sous toutes ses formes, certains avec des voix off d'élèves d'école primaire. Parmi ces 7, le merveilleux Esquisse sur glace de Marion Auvin, qui fait danser un bonhomme de neige. Moi, je me souviens de ces dessins merveilleux dans un doc qui s'appelle Michel Foucault et le Poisson Rouge.
C'est 35 minutes de pur bonheur, hein, avec ce programme de 7 courts-métrages fondés effectivement sur les témoignages d'enfants pour évoquer tour à tour le Père Noël, l'hiver, la neige, les sports d'hiver, mais aussi des sensations comme le chaud et évidemment le froid. Alors, couleurs pastel et choix musicaux pertinents en plus, tout ça concourt à faire de ce programme un parfait divertissement intelligent pour toute la famille.
Première neige.
Oui.
Dossier 137, on a reçu Dominique Moll la semaine dernière, on en reparle bien sûr. Ce dossier mené par Stéphanie Léa Drucker, enquêtrice à l'IGPN, la police des polices, une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, les circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité, un polar absolument captivant d'un côté et de l'autre du spectre, police, gilets jaunes, sans dénoncer, démonter les pièges d'une telle enquête. Et au centre, une extraordinaire interprète, c'est Léa Drucker. Il paraît que le film a très bien démarré et on est super contents.
Mais oui, il peut être vu à la fois par David Dufresne, qui dénonçait les violences policières, et par Agnès Thibault-Lecuivre, qui était à l'époque la chef de l'IGPN et qui a permis au film quasiment d'exister dans sa dimension au moins documentaire. Donc c'est vraiment un film qui allie les contraires et c'est ça sa très très grande réussite.
Avec un super casting, hyper crédible, notamment les policiers qui témoignent.
C'est vrai.
Dossier 137. Alors là, des ressorties...
Ah oui, de petits cinéastes, oui. D'un côté, Werner Herzog, hein, en salle à partir du 19 novembre. Il y a juste Aguirre, La colère de Dieu, Les ascensions de Herzog. Enfin bref, des merveilles, des pépites, de la folie. On parlait de Buñuel et quelques autres fous, et de Piccoli d'ailleurs aussi. Mmh. Mais Werner Herzog est un très beau fou de cinéma, et il faut vraiment aller voir et revoir ses films sur grand écran. Il y a un autre dingue aussi, en ressorti cette semaine, c'est un certain Francis Ford Coppola, avec 5 films, dont peut-être le plus dingue qui est Apocalypse Now, dont on voit le final cut ici, mais il y a aussi des absolues pépites comme Conversation secrète.
Sa deuxième Palme d'Or.
Absolument visionnaire, et qu'il faut revoir en ce moment, parce que franchement, il est d'une actualité brûlante. J'aime beaucoup Coup de cœur, qui est une petite comédie romantique qui fait aussi partie de ce programme dans lequel on croise Tucker aussi.
Vite, deux festivals.
Deux festivals, un week-end à l'Est, et les week-ends à l'Est durent 12 jours, c'est parfaitement normal pour ce pays qui adore le burlesque. Du 18 novembre, c'est passé au 1er décembre à Paris avec Christiane Mounjou. En parrain, vous irez voir donc de la littérature, de la danse, des concerts et du théâtre. Et puis, à Nantes, Festival des Trois Continents, très beau festival du 21 au 29 novembre avec des éclairages sur Ang Lee et Youssef Chahine, entre autres.
Très vite, parce que, alors on en a beaucoup évoqué, c'est Michel Piccoli, le génie du jeu. Oui. Olivier Père avec la participation de Ludivine Piccoli, préface de Gilles Jacob aux éditions de la Martinière.
Magnifique livre, on vous en offre chacun un exemplaire, chacun, mais vraiment c'est un super cadeau. Merci de beaucoup. Fin d'année. Et puis on a choisi une thématique de vous offrir à chacun une trilogie. La trilogie Pouchère, qui est faite par Nicolas Winding Refn, qui se passe à Copenhague. C'est un magnifique coffret, c'est Jokers.
C'est pour qui, ça?
Ah ben ça, c'est pour qui le voudrait, je ne sais pas. Allez, Claude Moriras, vous l'avez, il est entre vos mains, bravo. Et une autre trilogie, faite, alors tout autre chose, beaucoup plus rose quand même, Rêve, Amour et Désir, c'est la trilogie d'Oslo, qui est sortie chez Pyramide.
Génial.
Un peu trop sous les radars des sorties cinéma.
Si c'est rose pour moi.
Très vite, Yves, parce qu'on a très
je signale aussi un autre... Un livre de Gilles Kneuzet qui est sorti en 2018, où il est question de Michel Piccoli sur scène dans Minetti de Thomas Bernhardt. Et Gilles Kneuzet, ce comédien et écrivain, qui donnait la réplique et était un peu le souffleur de Piccoli. C'est un livre magnifique aux éditions Mot Conduit.
Merci beaucoup. Bravo, à tous les deux. Merci à notre belle équipe, Valérie Ayestaray à la réalisation, Benjamin Ducier à la préparation et Olivier Rioux pour la programmation musicale. Merci. Au revoir.
Salut.
C'était On aura tout vu sur France Inter.